Bonsoir, la BPI est ravie de vous accueillir ce soir pour cette rencontre avec Amy Polonic. Nous remercions vivement d'être là. Nous sommes ici à la BPI, donc dans l'espace presse, qui est un espace qui contient à la fois des abonnements de presse papier, à peu près 250, des abonnements à la presse électronique et également des numériseurs d'archives de presse. Je voulais vous dire aussi que cette soirée sera enregistrée, hein, donc vous pourrez podcaster cette rencontre avec Amy Polony, et que nous avons aussi un petit programme que vous pourrez prendre à la fin, qui recense en fait nos différentes actualités culturelles, également nos ateliers, nos visites, sachant que tout ce que nous faisons est gratuit et qu'il y a également un volet cinémathèque du documentaire. Mais ce soir, nous sommes en compagnie de Camille Polony, donc, qui travaille au jour. Les jours est un partenaire du cycle Reportage État des lieux, dans le cadre duquel se tient cette rencontre. Je pense que vous connaissez peut-être ce site. C'est un site d'information, mais Camille va nous en dire plus, qui travaille en fait l'information sous forme d'obsession. Et donc qui est également accessible ici gratuitement. Voilà. Alors, ce temps ensemble va se décliner en deux parties. Une première partie plutôt sur le parcours, la formation de Camille et ses choix professionnels. Donc, c'est un aspect plutôt métier. On fera un temps de pause au milieu de manière à ce que vous puissiez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les préparer. Et puis, une deuxième partie peut-être plus précise sur ce que vous faites au jour, comment vous travaillez, puisque vous êtes spécialisée dans les questions de police et de justice. Donc, on est très curieux de savoir comment vous allez chercher l'information dans des domaines très secrets. Et puis, Camille a eu la gentillesse de sélectionner une petite dizaine de documents. Donc, on va l'aborder au cours de la discussion, mais ce sont aussi des documents que vous pouvez consulter à l'issue de la rencontre. Hein. Voilà. Alors Camille, déjà une question impressionnante, qui êtes-vous? Mais surtout plus précisément, quelle est votre fonction au sein des jours et en gros qu'est-ce que les jours?
Ok, alors les jours c'est un site d'information qui a été lancé en 2016 par des anciens journalistes de Libération et qui fonctionne d'une manière un peu différente d'autres sites. Déjà on est payant sur abonnement, un peu comme Mediapart, avec l'idée de s'auto-financer grâce aux abonnements de nos lecteurs. En contrepartie, évidemment, il n'y a pas de publicité sur le site. Et l'idée est qu'on ait un site donc indépendant. Et on a une manière de travailler qui est un petit peu différente aussi, puisqu'on travaille, vous l'avez dit, sous forme d'obsession. Les obsessions, en fait, ce sont des séries d'articles consacrés à un thème, à une problématique, et qui, à la manière d'une série télé, fonctionnent par épisodes qui se succèdent les uns aux autres. La plupart du temps, on peut quand même lire un épisode au milieu de la série sans avoir lu les précédents. Mais l'idée est que le tout forme un ensemble cohérent avec une progression narrative et avec des personnages récurrents aussi. Donc une obsession, c'est une série en fait, une série d'articles. Moi, au sein des jours, je suis rédactrice, hein, donc je suis journaliste qui écrit, et je travaille, comme vous l'avez dit, spécifiquement sur les sujets qui ont un rapport avec la police et la justice, au sens large. Comme on est un site qui fonctionne par série, on ne traite pas de toute l'actualité, mais on fait des choix dans l'actualité, des sujets qu'on a envie de traiter. Je suis arrivée au jour à peu près au moment de leur création. Donc depuis le début, depuis 2016, j'ai pu travailler aussi bien sur l'état d'urgence que sur la loi travail, en tout cas la contestation contre la loi travail en 2016, sur des manifestations de policiers en octobre 2016, ou suivre aussi des procès. Cette année, il y en a deux en particulier où j'ai suivi l'intégralité du procès, le procès de l'affaire de Tarnac et celui de la mort de Clément Méric qui a eu lieu en septembre.
On a un livre sur le sujet Tarnac, magasin général, que vous avez peut-être choisi justement en rapport avec votre enquête.
Oui, parce que l'affaire de Tarnac, je ne sais pas si vous vous en souvenez tous, c'était il y a 10 ans une bande de jeunes qui ont été arrêtés au départ pour une affaire terroriste qui consistait en des sabotages sur des voies de chemin de fer et à qui on a collé l'étiquette de groupe terroriste d'ultra-gauche à l'époque on disait ça. Et puis le procès s'est déroulé cette année, donc après 10 années d'enquête, et finalement le résultat a été une relaxe quasi générale, à l'exception d'une personne qui a été condamnée à une peine assez légère avec sursis. C'est une affaire sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et David Dufresne, qui est un confrère, a écrit un super bouquin sur le sujet, qui raconte aussi bien de façon un peu subjective son rapport avec le sujet que l'affaire dans son ensemble et les personnages qu'il a pu rencontrer au cours de son enquête.
Oui, vous m'expliquez justement qu'il y a une manière de travailler au jour. Vous parliez de personnages. En fait, il faut arriver effectivement dès le début d'un travail de rédaction à identifier les personnages, à avoir un angle pour chaque papier. Est-ce que vous voulez en dire un petit mot tout de suite, par exemple ?
Oui. C'est la particularité de notre manière de travailler, c'est que comme on travaille en série, on essaye de concevoir à l'avance une sorte de synopsis de manière dont vont se dérouler les épisodes. Alors ça se passe jamais comme prévu, évidemment, puisqu'il y a toujours des épisodes qui se rajoutent et puis d'autres qu'on voulait faire, et finalement on se rend compte à force de travailler sur un sujet que c'est pas forcément la peine ou que autre chose s'y prêterait mieux. Mais c'est vrai qu'en amont de la publication des articles, on essaye de concevoir un déroulé même schématique et puis des personnages récurrents. Alors parfois, ça dépend un peu de la rapidité avec laquelle on lance une série. Il y a des séries qui sont très d'actualité. Par exemple, après l'affaire Théo à Aulnay-sous-Bois, moi je suis allée parler des rapports entre la police et la population à Aulnay, donc j'y suis allée un peu du jour au lendemain. Au départ, on ne sait pas forcément dans ce cas-là qui on va rencontrer, comment on va faire, et puis il y a des personnages qu'on choisit très vite. Personnages, c'est évidemment des personnages réels, hein, c'est des gens qu'on rencontre et sur lesquels on a envie de revenir plusieurs fois. Donc à Aulnay, par exemple, ça s'est construit un peu au fur et à mesure. Et puis il y a d'autres séries qui se construisent presque à partir des personnages. Au moment de l'état d'urgence, j'avais suivi plusieurs assignés à résidence, on en cherche en fait. Voilà, on se dit pour cette série sur l'état d'urgence se caractérise en grande partie par des assignations à résidence. Il faut trouver des gens qui sont dans cette situation-là, qui est une situation exceptionnelle, qui est évidemment très rare et puis qui est très étonnante, très soudaine et très nouvelle. Donc dans ce cas-là, on essaye de rencontrer des gens qui veulent bien aussi se prêter à l'exercice, nous rencontrer, raconter un peu ce qui leur arrive. Et puis pour l'état d'urgence, ça s'y prête très bien parce que c'est des gens qui du jour au lendemain se sont retrouvés assignés à résidence avec un couvre-feu, avec des pointages au commissariat, avec pas forcément une compréhension très, très profonde de leur situation puisqu'ils n'ont pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, et d'ailleurs c'est pas toujours le cas, donc l'idée était d'en rencontrer et puis de les suivre d'une semaine sur l'autre presque pour voir un peu l'avancée de leur démarche, essayer de voir aussi s'ils contestaient la mesure d'assignation, ce qui leur arrivait par la suite. Et donc c'est variable, la temporalité est variable. Il y a des séries qui sont courtes qui peuvent durer 2 semaines, et puis il y a des séries qui sont longues qui durent plusieurs mois.
Oui, tout à fait. Et justement, je pensais là à une série sur la justice financière qui approche les 40 épisodes. Ouais. Donc, c'est énorme. Et donc, j'imagine, vous y avez travaillé plusieurs années, en fait, sur cette série.
À vrai dire, non. Enfin, une année scolaire.
Une année scolaire.
On a commencé en septembre dernier. Et puis là, j'ai refait un papier il n'y a pas longtemps, mais c'est parce qu'il y avait une actualité qui se rajoutait. Mais disons qu'on a à peu près terminé à l'été qui vient de se passer. Donc oui, c'est ça, une année scolaire.
D'accord. Et j'imagine, alors pour revenir juste brièvement, mais c'est quand même intéressant sur la question des personnages, leur identification, je suis assez curieuse parce que je me dis, les sujets sur lesquels vous travaillez sont des sujets très sensibles. On a la prison, vous avez écrit un livre qui en fait au départ était des billets de blog, mm-hmm. que vous avez rédigé pour le site Rue 89 si je ne me trompe, et donc vous avez interroger quelqu'un qui revient en fait à la liberté après avoir été emprisonné. Mmh. Et j'imagine sur des sujets comme ça, il faut arriver à trouver ses sources. Enfin, comment vous arrivez à convaincre les gens de travailler avec vous ?
Ça dépend. Alors pour ce livre-là, en fait, ça a été très facile, étonnamment. En fait, j'étais en relation avec une association qui fait du suivi et de la réinsertion de détenus. Et moi, mon idée de départ, c'était, je travaillais à l'époque pour Rue 89, c'était juste d'aller, par exemple, une journée, 2 jours, 3 jours, dans cet endroit où donc ce sont des bureaux où des assistantes sociales rencontrent des détenus ou des gens en semi-liberté ou des gens qui sortent de prison. Et puis, je voulais voir, quel est le travail d'un travailleur social, d'une travailleuse sociale qui rencontre des détenus ou des ex-détenus. Et puis, en fait, c'est eux qui m'ont proposé de faire l'inverse. C'est-à-dire, ils m'ont dit, mais est-ce que ce serait pas plus intéressant pour vous si vous suiviez un détenu sur la longue durée, qui revient en rendez-vous chez nous toutes les semaines, et puis vous viendriez toutes les semaines au moment de son rendez-vous, et vous assistez au rendez-vous. Et en fait, la première personne à qui on a demandé, c'était Alain, donc, qui est dans le livre, qui est le héros du livre, la première personne a accepté, parce que lui, il avait Il avait eu que des... Alors, c'est rare, effectivement, mais il avait eu que des bons contacts avec des journalistes, parce que quand il était en prison, il avait eu des intervenants journalistes qui étaient venus faire un atelier. Donc, pour lui, un journaliste, c'était quelqu'un de plutôt sympa et qui... Voilà, il n'en avait pas une mauvaise image, comme ça peut arriver, et à raison aussi, quand des gens ont eu des mauvaises expériences. Donc, bah voilà, tout de suite, il a accepté. Et puis, moi, j'assistais au rendez-vous et ensuite, je racontais le rendez-vous sur le blog au fur et à mesure. Puis, au bout d'un moment, ça a donné un bouquin.
Mais du coup,
mais bon, ça ne répond pas vraiment à votre question. Mais...
Bon, si, indirectement. Mais en fait, je pense que oui, ce qui est important aussi, c'est le pacte de confiance que vous avez noué. Puisque vous le dites dans le livre, hein, là, j'avais relevé une citation où vous dites, en fait, quelque part, il pouvait mentir, il pouvait dire des choses, mais je n'allais pas vérifier. En fait, il m'avait dit qu'il me dirait la vérité. Donc moi, je prenais acte. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est comment vous vous mettez à hauteur de personne. En fait, vous mettez vraiment à sa place. Vous essayez de comprendre comment... Il réfléchit. Pour lui, une fenêtre sans barreaux, c'est quelque chose d'étonnant, etc. Donc, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui nous permet de rentrer vraiment dans l'altérité de cet ex-détenu. Et je trouve que c'est vraiment la force du livre. Et je disais ça pour boucler sur le temps long, parce qu'en fait, ça, c'est aussi ce que vous me disiez, une particularité des jours ou des travaux comme celui-ci, c'est que vous pouvez prendre le temps, justement, d'aller à la rencontre, de passer ce temps-là avec les personnes que vous interviewez. Et j'imagine que ça, ça les met en confiance aussi.
Oui, bien sûr, c'est la question du temps et puis aussi de, j'allais dire, le temps de perdre du temps, quoi, de rencontrer des gens, de discuter parfois en prenant un café. Enfin voilà, on n'est pas. C'est vrai qu'au jour, on a une qualité de conditions de travail, je dirais, qui est assez rare et la possibilité de travailler, des fois, de dire à mes rédacteurs en chef, là, je vais prendre un café avec un tel, ou enfin, sans forcément préciser qui c'est exactement, mais je dois aller prendre un café avec quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais peut-être que c'est quelqu'un qui peut m'apprendre des choses sur tel sujet. Ou donc, on peut aussi travailler de cette manière-là, et c'est assez rare. On n'est pas voilà, on n'est pas soumis à des exigences de productivité énormes. Tant qu'on fait du bon travail, on peut prendre le temps de le faire.
Mais ça, c'est vrai que c'est un luxe. Moi, j'aimerais quand même qu'on reparte un petit peu en arrière sur votre vocation, en fait, tout simplement. Moi, j'ai lu une petite phrase sur Internet qui, en fait, a trait au début de votre attrait, justement, pour le journalisme, puisqu'en 95, vous voyez la mort de Khaled Kalkal à la télévision, vous avez 9 ans, et tout d'un coup, vous vous dites, moi, je voulais être journaliste parce que j'avais le goût de chercher. Hein, et je trouve que ça, c'est intéressant. Est-ce que justement, comment on devient... Moi, j'ai noté journaliste d'investigation. C'est peut-être faux, je ne sais pas. Parce que je trouve que quand même, vous vous intéressez à des milieux fermés, vous vous intéressez à la prison, vous vous intéressez aux tribunaux, aux fichiers S qui sont parqués à la maison. Donc, je me demandais quelles études vous aviez faites et quel a été le déclic pour vous tourner vers cette spécialité-là.
En fait, les choses sont venues progressivement. Le métier, j'avais envie de le faire depuis très longtemps, mais je pense comme beaucoup de gens qui sont devenus journalistes à une époque où il n'y a pas beaucoup de travail. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais envie de devenir journaliste depuis mon enfance, mais après, ce n'est pas du tout ce que je m'imaginais, évidemment. Enfin, le métier me plaît, mais pas pour les raisons que j'imaginais quand j'étais enfant.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que quand on est enfant, je pense que la figure du journaliste la plus connue, c'est Tintin. Donc, c'est parcourir le monde et résoudre des énigmes. En fait, moi, je ne parcours pas le monde, mais j'aime plus finalement ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas une vocation de correspondante à l'étranger ou de grand reporter. C'est plutôt ce que je fais, les milieux sur lesquels je travaille, la question de la contrainte, de la privation de liberté, du rapport à l'autorité qui m'intéresse davantage que Globetrotter. Mais donc le métier, je voulais le faire depuis longtemps. Et après, j'ai essayé de me donner les moyens de le faire en faisant des études qui me permettraient d'accéder au concours des écoles de journalisme pour toujours dans l'idée, hein, parce que je pense que on était beaucoup, en tout cas de ma génération et des suivantes, à se dire ben mince, journaliste, ça doit être super comme métier, mais il y a pas de boulot. Donc pour essayer de s'assurer un tout petit peu de trouver du travail, on essaye un peu de faire les bonnes études, ce qui n'est pas forcément les études qu'on rêve de faire, mais en tout cas des études qui nous mènent à un emploi. Donc j'ai fait Sciences Po Bordeaux et l'école de journalisme de Lille. Qui permettent quand même d'avoir de trouver des stages pendant la scolarité et puis ensuite de trouver un métier. Et j'ai commencé à travailler donc aux Inrecuptibles il y a 9 ans.
Et vous faisiez quoi exactement aux Inrocks Cuptibles?
Aux Inrocks, je travaillais sur tout ce qui était le volet société des Inrocks, puisque à ce moment-là, suite au rachat du magazine par Mathieu Pigas, il y avait l'idée de développer un volet société un peu supérieur à ce qui existait. Donc en fait, le monde se divisait en deux. Il y avait la partie culture et la partie société. La partie culture étant davantage la partie historique des Inrocks, la partie critique de ciné, de musique, etc. Moi, je travaillais pour la partie société et pour le site internet. Donc au départ, je faisais un peu tout. Aussi bien le congrès du Parti Socialiste à La Rochelle que des papiers sur les sans-papiers ou sur la taxe professionnelle. J'ai le souvenir d'un article sur la taxe professionnelle. Et puis au bout d'un moment, on a eu une sorte de moment où on était plusieurs à avoir envie de faire de l'enquête. Il y avait un chef enquête qui nous poussait un peu vers ça. Donc on a eu une petite cellule comme ça où je me suis rendu compte que les sujets en rapport avec la police et la justice, ça me plaisait plus que le reste. Et la spécialisation, elle s'est faite au fur et à mesure. Donc disons qu'aux Inrocks, je suis restée 3 ans. Pendant la première année, je faisais un peu de tout. Puis au bout d'un moment, ça s'est resserré autour des questions que je traite aujourd'hui.
Et comment ça se passe justement? Est-ce que ça veut dire que vous passez votre temps dans les commissariats, au tribunal?
Non.
Comment
Non, ça veut dire que j'ai pas fait de droit, moi, j'ai pas de formation en droit. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent mais comment on fait pour comprendre comment fonctionne la justice? En fait, on lit des articles faits par d'autres, on essaie de comprendre. Et puis moi j'ai un souvenir, par exemple en 2011, il y avait la réforme de la garde à vue. Donc c'était la réforme qui prévoyait que l'avocat soit présent dès le début de la garde à vue avec son client. Moi à l'époque, je savais pas combien de temps ça durait une garde à vue, quels étaient les droits de la personne gardée à vue. On lit, on cherche des articles de presse qui expliquent ça, on appelle des gens, on appelle des avocats pour qu'ils nous expliquent, on passe un peu pour un imbécile pendant quelques temps parce qu'on connaît rien. Et puis au bout d'un moment, maintenant là, je peux vous dire tout ce qui se passe pendant une garde à vue du début à la fin. Après, c'est pas du droit, c'est des connaissances spécialisées immédiatement pratiques pour notre travail quotidien. Donc je connais pas, j'ai pas la prétention de connaître le droit. Par contre, sur la procédure pénale, sur la manière dont un avocat peut défendre son client, sur comment se déroule un procès, oui. Et maintenant, ça m'arrive d'intervenir dans les écoles de journalisme. J'apprends aussi aux étudiants, au procès, un tel est assis là, un tel est assis là, et puis on fait des simulations, et puis toi tu vas jouer l'avocat, toi tu vas jouer le juge, et puis qui parle en premier, qui parle en dernier, et puis voilà, on apprend comme ça. Au fur et à mesure avec les gens plus anciens dans notre rédaction, en lisant beaucoup et puis en essayant de comprendre chaque sujet qu'on traite. Pour faire un bon article, il faut de toute façon sortir un peu des 2-3 questions qu'on peut se poser pour avoir la réponse immédiate, mais aussi essayer de comprendre le tableau général.
Tout à fait. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas avocate, vous êtes journaliste. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, vous, quand même, vous menez vous aussi une enquête, mais une enquête qui est en regard de l'enquête qui a lieu au tribunal. Donc effectivement, peut-être ça, on pourra en parler un petit peu plus avant tout à l'heure. Moi, je me demandais, est-ce que dans votre parcours, il y a des gens qui ont été inspirants, pour lesquels il y a eu en fait un attrait qui fait que vous ayez eu un déclic? Est-ce qu'il y a des grandes plumes ou il y a des modèles comme ça pour vous?
J'ai plein de petits modèles, mais c'est des modèles, c'est mes confrères d'aujourd'hui en fait. J'ai pas forcément de connaissances assez poussées des journalistes du début du XXe siècle par exemple pour me dire ah oui, j'adore la plume de un tel ou une telle. Je découvre même récemment, j'ai lu un bouquin de Nellie Bly qui est l'une des premières femmes journalistes américaines qui avait fait un reportage dans un asile psychiatrique. Enfin, elle en a fait plein, mais il y a un bouquin dans lequel elle raconte comment elle s'est faite interner dans un asile psychiatrique pour raconter les conditions d'internement. Et c'est un bouquin passionnant, mais voilà, moi je les connaissais pas quand j'ai commencé à travailler, donc c'était pas des modèles qui m'ont permis de... Non, après c'est des collègues qui sont très bons dans leur domaine, et aujourd'hui encore il y a des gens que j'admire et qui dans leur travail me semblent rigoureux, précis, très efficaces, et voilà. Mais c'est des héros du quotidien, c'est pas des héros du temps passé.
Oui, je me demandais parce que vous aviez parmi les livres sorti Hommage à la Catalogne, justement. Donc je me posais simplement la question de savoir dans votre parcours pourquoi ce livre, pourquoi ce soir, et qu'est-ce que vous aviez envie peut-être d'en dire par rapport à votre parcours à vous. Bah,
c'était un peu par rapport au thème de cette rencontre, c'est-à-dire que c'est pour moi l'un des plus beaux reportages qui a été fait. Et puis c'est un reportage sous une forme presque pure. Voilà, c'est Orwell qui part en Catalogne au début de la guerre d'Espagne, et puis qui raconte un peu l'utopie qui règne là-bas et le choc entre l'utopie et la guerre qui arrive, et qui le raconte évidemment très bien parce qu'il écrit très bien, et avec un peu de à la fois il est engagé dans son regard sur ce qui se passe là-bas, puisqu'il est plutôt favorable évidemment au camp républicain, et il est même membre du POUM, je crois, mais il y a aussi un côté naïf, c'est-à-dire qu'il arrive et puis voilà, il se dit je vais décrire ce que je vois, je vais rencontrer des gens, leur parler, et puis bon, c'est très bien écrit, c'est très drôle et c'est très triste aussi, mais c'est très bien raconté. Donc c'est pour moi l'un des reportages un peu fondateurs. Après, je l'ai lu, c'est pareil, je travaillais déjà quand j'ai lu ce livre.
Oui, de toute façon, on n'a jamais épuisé, on se nourrit en fait.
Les journalistes, malheureusement, écrivent beaucoup, donc pour tout lire, il faut des années.
Exactement. Je proposerais bien, là, à peu près à mi-parcours, de prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a déjà des réactions, des choses qui vous donnent envie de rebondir ? Ah, il va y avoir un micro.
Merci beaucoup. Ma question est plutôt d'ordre sociétal ou philosophique. Il me semble, moi, avec toutes les tentatives que j'ai faites pour voir un de mes articles pris par Libération, qui passait d'ailleurs des articles gratuits quand c'était les lecteurs, on pouvait avoir une page un peu contestataire, un peu, mais ça c'était les années, disons, 80. Mais toutes les vraies tentatives de demande d'emploi auprès de Libération, que ce soit la pige, que ce soit faire passer quelques articles, je n'y ai jamais réussi. Et oui, mais c'est pas grave. Moi, pour moi, un micro, je m'en passe même pour chanter. Alors, pour parler des inrecuptibles, j'ai déjà joué de la guitare dans le métro. Et ce sont les meilleurs reportages qu'on puisse faire. Alors, je voulais vous poser une question allant droit au but. Et c'est mal à propos, comme on dit. Qui paye les études ? Alors, à Sciences Po, on peut avoir des bourses, mais je ne pense pas qu'il n'y en ait eu récemment, enfin, plus antérieurement. Et ensuite, l'école de journalisme, parce que j'étais première en sortant au bac, j'avais ma mention assez bien au premier virage du baccalauréat, et j'ai fait de la philo. On m'avait dit, oui, vous pouvez faire les études de médecine ou reportage. Personne ne voulait payer pour l'école de journalisme. Bien, j'ai écrit, j'adressais à un journal de Libération des exemplaires de ma revue NRAIC. C'était le département problèmes de société, un truc comme ça. J'ai oublié son nom, mais j'ai constaté qu'il travaille maintenant au jour. Alors, les jours, j'ai compris que c'était du journalisme thématique. J'ai même posé ma candidature et je l'ai envoyée uniquement à Patricia Touranchot, parce que lorsqu'il y avait eu la visite de Libé dans les anciens locaux en collimation, donc avant les principaux épisodes de terrorisme récents, on recevait le public avec des journées ouvertes.
On va peut-être prendre la première partie de la question. Alors, sans vous couper.
La seconde partie, la suivante, je lui adressais mon CV, un petit article un peu contestataire, en disant que je proposais une thématique: que sont devenus les enseignants non titularisés ou étant admissibles à des concours et qui ont bossé 20 ans en alternance avec des centres de formation, des centres de l'éducation nationale, sachant qu'avant, ils pouvaient éventuellement avoir travaillé pour l'entreprise dans tous les services, en intérim, Manpower, Minerve, etc. Et ensuite, pour des Greta, des collèges, et polémiques sur la guerre des religions.
On va prendre la première partie de la question, on pourra peut-être...
C'est-à-dire, est-ce que ce ne sont pas des emplois réservés au journalisme, aux classes les plus favorisées? Et c'est là le véritable point de la question.
Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais du coup, pour reformuler, en fait, il y a deux questions. Hein. Il y a la question de la formation. Est-ce que vous travailliez déjà lorsque vous avez fait votre école? Quelles sont les conditions matérielles? Je pense qu'on a des étudiants journalistes dans la salle pour faire des études de journalisme. Et la deuxième partie, c'est effectivement, est-ce qu'on vient d'une famille de journalistes et on devient journaliste? Enfin, la question de la reproduction sociale.
Alors, pour répondre à votre question, je peux vous répondre sur mes origines sociales peut-être, parce que du coup c'est directement... ma mère est enseignante en collège et mon père est décédé, mais il ne travaillait pas. Il a toujours été père au foyer depuis ma naissance. Donc on n'avait pas, pas beaucoup d'argent à la maison. Qui paye les études? Alors, dans mon cas... puisque je peux vous répondre que sur mon cas. Dans mon cas, c'était le salaire de ma mère et des bourses qui venaient en complément. Pour Sciences Po, comme pour les écoles de journalisme. En école de journalisme, il y a des prix aussi. C'est-à-dire qu'on passe on envoie des articles pour des associations type Association des journalistes de l'information sociale qui, moi, m'avait décerné une bourse qui m'avait aidé à payer mes frais de scolarité en deuxième année. Pour vous répondre plus largement, parce que c'est quand même une question qui se pose, je pense, sur l'origine sociale des journalistes, je pense, il me semble, que les journalistes formés en école de journalisme, qui sont effectivement des institutions assez chères et souvent et privées, pour la plupart, sont des gens qui viennent de classes moyennes. Par exemple, on était beaucoup à avoir des parents profs. Un des parents ou deux parents profs. Pour autant, des familles de journalistes, moi, j'en ai pas vraiment connu. J'avais une collègue à l'école de journalisme qui était fille de journalistes de la presse quotidienne régionale, mais il n'y avait pas non plus de dynastie de journalistes dans cette école-là. Voilà sur les origines sociales, sur les miennes en tout cas. Après, effectivement que c'est une question qui se pose et que la question est non seulement sociale, elle est aussi de couleur de peau et d'extraction. C'est-à-dire qu'on peut, être de classe moyenne et venir de banlieue et on n'aura pas forcément le même destin étudiant que quelqu'un qui est de classe moyenne et qui vient de centre-ville.
Justement, je vous ai coupé l'herbe sous le pied, mais on avait sorti, vous aviez choisi un ouvrage sur le Bondy Blog, et je pense que là, on est vraiment dans le sujet, là, pour le coup. Est-ce que vous voulez en dire deux mots?
Ce bouquin-là, alors, je vous le recommande vraiment si jamais vous avez le temps de le lire. En fait, le Bondy Blog a été fondé par des Suisses au tout début. C'est des journalistes suisses qui étaient venus en banlieue parisienne après, je crois que c'était à Clichy d'ailleurs, au tout début. Enfin, c'était à Bondy pour le moment où ils sont installés, mais je me demande si ils s'étaient pas d'abord intéressés à Clichy. Enfin, bon. Donc, des journalistes suisses étaient venus, avaient pris un appartement à Bondy et avaient décidé de commencer à raconter c'est quoi la vie dans une banlieue française, l'une des banlieues dont sont parties les émeutes de 2005. Et ils s'y sont, ils ont raconté de manière un peu subjective leur rencontre, leur première rencontre, leur installation dans l'appartement, les gens qui croisaient de la cité et puis les difficultés qu'on peut avoir aussi quand on travaille dans un quartier populaire à passer le premier cercle. C'est-à-dire qu'on rencontre assez facilement des gens qui veulent bien nous parler, mais ensuite c'est compliqué d'aller un peu plus loin et de rencontrer d'autres personnes. Et il le racontait au jour le jour sur le Bondy Blog, avant que ça devienne le Bondy Blog tel qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire, ils avaient dès le départ le projet de léguer en quelque sorte leur travail aux habitants pour qu'ils le reprennent. Ce qui s'est passé et puis qui s'est professionnalisé par la suite, puisque maintenant le Bondy Blog fait des articles qui ressemblent plus à des articles de presse, enfin qui sont des articles de presse, alors qu'à l'époque c'était un blog très quotidien qui racontait à la première personne ce qui se passait dans la cité.
Oui, donc en fait, on peut venir de banlieue, être journaliste. Enfin voilà, je trouve que c'est une initiative.
Après, c'est le blog des Suisses, mais c'est vrai que.
Mais c'est très intéressant puisqu'effectivement, les apprentis journalistes au départ qui étaient encadrés en fait par des journalistes professionnels sont devenus eux-mêmes professionnels. Et en fait, l'aventure continue. Donc ça, c'est assez formidable. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Profitez-en puisqu'après, on va passer à la deuxième partie. Donc sentez-vous libre vraiment de si vous avez envie d'échanger avec Camille, même une remarque ou voilà, c'est un petit format. Merci, voilà au fond. Peut-être attendez le micro.
Ah ouais. Voilà. Ah, c'est bon, ça marche. On vous posait la question de savoir quel peut-être éventuellement confrère pouvait correspondre à des modèles. Moi, je me demandais, est-ce que aussi vous avez des modèles peut-être sur des travaux un peu sociologiques sur la question de la prison, la justice, la police, et lesquels sont, si vous avez peut-être des conseils de lecture à donner?
Alors, vous me prenez un peu au dépourvu, parce que je n'y ai pas réfléchi avant de venir. Du coup, je vais peut-être dire des trucs bêtes, mais... là, qui me revient en mémoire, il y a le bouquin d'Éric Fassin sur la BAC. Je crois que c'est sur la BAC, en tout cas sur un commissariat. Il avait passé beaucoup de temps dans un commissariat pour faire un travail de sociologue. Je vais avoir du mal à vous répondre comme ça, mais je peux essayer de m'en rappeler au fur et à mesure. Et puis, quand la discussion s'y prêtera, je vous le dirai. Mais là, je bloque un peu.
Bonjour. J'ai une petite question. Je suis arrivée un peu en retard, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais est-ce que vous êtes salarié ou pigiste? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être pigiste et du coup d'avoir à, comme je reviens un peu sur la question de la dame, proposer des sujets aux rédactions, comment faire et tout ça?
Non, on n'a pas parlé, donc vous n'êtes pas arrivé ainsi en retard que ça. Oui, je suis salariée au jour, donc je suis salariée en CDI à plein temps, donc j'ai pas la question. Enfin voilà, j'ai pas cette question se pose pas pour moi pour l'instant. En fait, j'ai jamais été vraiment pigiste parce qu'à la sortie de l'école, j'ai travaillé aux Inrock pendant 3 ans, puis à 89 pendant 3 ans. Il y a un moment où j'ai un tout petit peu expérimenté la question. C'est un moment où j'ai pris 6 mois de congé sabbatique à 89 et où j'avais le droit de travailler ailleurs et je l'ai un petit peu fait. Mais je suis pas la mieux placée pour vous en parler puisque en fait je travaillais déjà depuis un certain nombre d'années, ce qui aide beaucoup, je pense, à vendre des sujets par rapport à une personne qui débute. Donc on est plus sur les mêmes enjeux, c'est-à-dire que quand on travaille déjà depuis 5-6 ans, on a plus de facilité déjà à avoir des réponses quand on propose des sujets dans des rédactions. On sait peut-être mieux aussi ce qu'on veut faire et puis on a l'habitude de faire des sujets sur certains thèmes, donc c'est plutôt vers ça qu'on va aller. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'était facile parce que moi je l'ai fait que très peu de temps, quelques mois, et puis à ce moment-là j'étais quand même en congé, donc j'avais pas besoin d'en vivre tous les mois. Après évidemment que quand on a déjà travaillé c'est pareil, on peut bénéficier du chômage et ça aide pour pouvoir compléter avec ce qu'on va gagner en pige. Il n'y a pas de recette, je crois, pour proposer des piges, à part que généralement, ça ne sert à rien de dire « bonjour, je suis là », qu'il faut quand même proposer des sujets ou des thèmes, en tout cas, qui peuvent intéresser les rédactions, puis essayer de venir ici, à la bibliothèque, de regarder tous les journaux qu'il peut y avoir et de se dire « ah oui, ça, j'y avais pas pensé, tel titre, j'y avais pas pensé ». Essayer de bien connaître la presse, beaucoup lire la presse, voir dans quel domaine, quel journal est fort, j'allais dire, et puis ce qui s'est déjà fait, parce que c'est mieux de proposer des choses qui sont pas forcément inédites, mais en tout cas qui n'ont pas été faites par le même journal auquel vous proposez quelques jours avant, évidemment. Après, au jour, on fait travailler des pigistes, qu'on fait travailler sur une série entière. Donc c'est un peu plus rentable pour le pigiste que de proposer un papier à un titre, puisqu'il y a l'idée de suivi et puis de prendre toute une série et de faire travailler la personne pendant plusieurs semaines, quoi. Non, on est beaucoup trop petit pour ça.
Non, pas de ressources humaines.
On n'a aucune ressource humaine.
Peut-être qu'on pourra prendre ce temps. Plus vous avez une question très particulière, peut-être qu'on peut la poser après. Ouais.
Non, on n'a pas de ressources humaines. On a des rédacteurs en chef et voilà, c'est eux qui voient.
C'est pour ça.
Bonjour Camille. Bonjour. Moi, je me posais surtout la question comment ça se passe à la rédaction des jours? Ben, c'est un petit service. J'imagine qu'il n'y a pas de conférence de rédaction tous les matins. Est-ce que tu es souvent à la rédaction? Est-ce que tu es plutôt sur le terrain? Comment ça se passe?
Alors, il y a une conférence de rédaction toutes les semaines. Ce qu'on appelle des réunions d'obsession qui se rajoutent, qui sont un peu moins souvent et qui essayent de prévoir qu'est-ce qu'on aimerait faire dans les semaines, dans les mois à venir, quelles obsessions vont commencer, donc quelles séries, hein, c'est pareil, quelles séries vont commencer dans les semaines à venir, quels journalistes ont envie de faire quoi, et puis d'harmoniser un peu le planning, mais sur du temps un peu plus long. Chaque semaine, par contre, c'est plutôt la réunion de prévision, un tel va faire tel papier, on va le passer tel jour, enfin c'est le rythme un peu quotidien. Et après, comment ça se passe? On a des locaux qui sont une sorte d'appartement, comme un grand open space, mais ça doit faire 70 mètres carrés. On est une douzaine à travailler en permanence. Et puis le circuit de la copie, parce que c'est peut-être une des questions aussi que tu te poses du coup, moi j'écris mon papier, je le rends à mon rédacteur en chef ou ma rédactrice en chef selon qui est là ce jour-là, et puis elle ou lui le relit et ensuite ça passe à l'édition. Donc c'est la personne qui est un peu comme un secrétaire de rédaction dans la presse papier, qui va mettre en page, choisir avec le directeur photo les photographies. Vous aviez reçu le directeur photo ici d'ailleurs, et éditeur.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
Donc c'est d'autres métiers de la presse. Et puis ensuite, le papier est publié sur le site par les éditeurs. Et ensuite, en termes d'emploi du temps plus quotidien, moi, je dirais par défaut, je viens au journal tous les matins. Et puis quand j'ai un rendez-vous en ville, je pars et je reviens. Si j'ai un reportage, si j'ai un procès qui dure 15 jours, par exemple, c'est vrai que je ne vais pas forcément mettre mon nez à la rédaction, mais ça dépend vraiment des périodes et des choses à faire.
Oui, et puis aussi une spécificité...
J'ai un bureau, enfin, en tout cas. Voilà. On peut venir tous les jours, et puis quand on a des choses à faire, on ne vient pas.
Une spécificité, voilà, c'est qu'en fait, vous n'avez pas vraiment de journée type, quoi. En fait, c'est ce que vous dites, c'est un petit peu selon les moments, les personnes que vous rencontrez, c'est cette liberté-là. Mais aussi, on avait vu avec Sébastien Calvet des jours qu'il y a aussi un travail graphique. J'ai vu notamment dans un des articles sur le procès Méric, justement, il y avait un dessinateur qui avait participé. Comment ça se passe? Vous partez avec lui sur place? Il fait un dessin a posteriori? Comment
Alors, les dessinateurs, ça dépend. Dans ce cas-là, en fait, il y a souvent dans les tribunaux, il y a des dessinateurs d'audience, des gens qui ont l'habitude de venir. Julien Jolin, qui a fait les illustrations pour ce procès-là, il avait de toute façon prévu d'y aller, parce que lui, il est pigiste aussi, hein, donc il peut aller faire une audience, enfin dessiner à une audience et ensuite proposer à plusieurs titres de presse est-ce que vous voulez mes dessins. Et on l'a appelé en fait un peu en amont du procès en lui disant bah, de toute façon nous on va en avoir besoin de dessins, donc est-ce que tu veux bien venir le premier jour, le deuxième jour d'audience, et puis on est sûr de te prendre des dessins, et ensuite bah, si tu veux y retourner tu retournes, on verra si on t'en prend d'autres, mais en tout cas il y a une ou deux journées de travail assurées. Donc dans ce cas-là ça s'est fait sur le moment. Après avec un photographe par contre c'est un peu différent. C'est un dessinateur, quelque part, il fait son travail de dessinateur et on en parle, mais on n'est pas vraiment collé ensemble. Avec un photographe, il y a un peu plus de discussion pour savoir bah, qu'est-ce que lui va me demander, de quoi j'ai besoin comme photo, quelle est l'idée de mon article, est-ce que du coup il y a des personnes qui sont plus importantes que d'autres à prendre en photo, selon la scène qu'on voit. Par exemple, pour les manifs de la loi travail, on partait souvent en binôme avec un photographe qui est aussi un ami qui s'appelle Yann Lévy, et puis on en discutait beaucoup parce qu'on ne voyait pas toujours exactement les mêmes choses, parce que lui, il allait devant et moi j'allais derrière, et puis que du coup on se retrouvait à des moments, on s'appelait, t'es où, qu'est-ce que tu fais, et puis là on est en dialogue un peu permanent sur bah, qu'est-ce que t'as vu comme image, et puis ah bah moi derrière ça se passe pas du tout de la même manière, il se passe tel truc, est-ce que tu peux venir, enfin voilà, on échange quoi.
Mais je trouve que c'est une vraie force parce que je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle ont pu regarder le reportage en fait sur le procès Méric. Mais donc, si on rappelle en deux mots, en fait, Clément Méric est un militant d'extrême gauche qui a été, si vous voulez le dire, peut-être tué par...
Il a été tué par des skinheads d'extrême droite en 2011.
Voilà, parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais du coup...
Ça a été jugé maintenant.
Oui, ça a été jugé. C'est ce que je disais à Camille, c'est un reportage très émouvant parce qu'en fait, finalement, ce sont deux bandes rivales, extrême gauche et extrême droite, et il y a un mort au milieu et personne n'est gagnant. C'est ce que vous écrivez à la fin. D'ailleurs, une phrase très émouvante, c'est un gâchis en fin de compte. Et je dirais, là, la force des photos, c'est qu'à un moment donné, on a un personnage qui s'appelle Serge Ayoub et qui est un petit peu le mentor des jeunes qui sont de la mouvance extrême droite, et là on a une photo dans son environnement, dans son bar en fait, qui est un peu le QG, avec en fait toute sorte de portraits qui font une sorte de cosmologie voilà, de mouvance extrême droite, et là d'un coup je dirais il y a ce que vous écrivez et il y a la photo, et ça devient beaucoup plus puissant effectivement de voir ça.
Oui, bah c'est un peu c'est l'un des présupposés des jours, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait un travail graphique, on veut qu'il y ait des photographes qui travaillent pour nous, on veut faire travailler des illustrateurs, enfin il y a une double préoccupation de on veut du contenu original, que ce soit pour le texte ou pour la photo. Et on veut qu'il y ait un vrai contenu graphique, que ce ne soit pas juste des photos d'illustrations prises dans des agences, enfin, voilà, qu'il y ait des gens qui travaillent pour nous, qui conçoivent avec nous la manière de travailler. Et Sébastien Calvet, le directeur photo, est très très attentif à ça. Donc déjà, voilà, y a des photos, il y a des reportages qui sont financés par les jours pour aller avec les articles. Je ne dirais pas illustrés, parce que c'est plus que ça. Et puis, il y a aussi des photos qu'on rachète, évidemment, parce qu'elles s'y prêtent. Et puis, la photo de Serge Ayoub dans le local, ouais, effectivement, c'est, elle s'y prêtait. Mais il y a un choix dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Enfin, voilà, on ne se dit pas... on parle de téléphone, donc on va mettre un téléphone. Enfin, on essaye de chercher de quelle manière illustrer.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer un petit peu. Vous en aviez une ? Oui, deux questions.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai une question au sujet des jours. Et en tant qu'entreprise de presse, on dit que le journalisme a encore de l'avenir, mais que pour les entreprises de presse, c'est plus compliqué. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je voulais savoir si en termes d'abonnement, les jours avaient atteint le seuil suffisant pour être rentable. Sinon, est-ce que c'était en bonne voie ou pas? Et enfin, pourquoi est-ce que les jours, selon vous, auraient éventuellement plus d'avenir que Libération?
Alors sur la question économique, c'est vraiment une question qui se pose et qu'on se pose tout le temps. Là, on a dépassé les 10 000 abonnés en 2 ans, mais ça suffit pas. Donc, non, la rentabilité n'est pas encore atteinte. En fait, le meilleur moyen de l'atteindre, ce serait vraiment d'avoir plus d'abonnés. Parce qu'on voit régulièrement que... En fait, les gens qui sont abonnés au jour, en général, aiment bien. Mais entre s'abonner... Enfin voilà, on ne va pas s'abonner 8 fois. Donc, on a besoin de passer à une dimension supérieure en termes de notoriété. Il faut que des gens qui ne connaissent pas encore découvrent. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même assez peu de désabonnements en proportion des abonnements. Et qu'on arrive à avoir on a un public, on a un lectorat. Les gens lisent des séries très différentes. Enfin, selon, on a quand même des séries qui parlent de tout un tas de sujets variés. Tout le monde ne lit pas la même chose. Donc c'est assez riche. Et nos abonnés sont notre meilleure ressource. Ils nous envoient des mails, ils nous disent ce qu'ils ont pensé de telle série, ils nous demandent de continuer celle-là, d'arrêter celle-ci. Enfin. Donc la rentabilité économique, on l'atteindra que si on en a plus. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Après, là où je pense qu'on a de l'avenir, puisque, enfin, comme vous le demandiez dans votre question, c'est que, en fait, on coûte pas cher à produire parce que ce qu'on fait, c'est de la qualité, mais c'est pas toute l'industrie d'un journal papier. C'est pas le coût du papier, le coût de l'impression, le coût des locaux, des entreprises de presse du XXe siècle est immense en fait. Et c'est vrai que faire un site internet comme on le fait, on a beau dépenser plein de fric pour payer des photographes, pour payer des illustrateurs, payer des journalistes, en fait il y a que ça qu'on paye quasiment. Et donc c'est uniquement dédié, enfin nos budgets sont uniquement dédiés à notre travail et à essayer de le faire le mieux possible. Donc quelque part... Si là, en gros, pour vous donner les chiffres hein, qui sont de toute façon publics, on en est un peu plus de 10 000 abonnés, il nous en faudrait 15 000 pour être rentable. C'est pas dingo, quoi. On n'a pas besoin de 150 000 abonnés. C'est possible. Après, reste à savoir si on aura le temps pour le faire, si les gens vont s'abonner suffisamment rapidement, j'allais dire, si suffisamment d'abonnés vont arriver pour que la rentabilité soit atteinte. Mais je pense que c'est possible parce que c'est un bassin d'abonnés qui est réaliste quelque part.
Et pourquoi les jours auraient plus de chance que Libération ?
Que Libé, j'en sais rien. Après, c'est vrai que voilà, il y a tout ce que je vous ai dit juste avant, qui est que faire un journal papier quotidien, ça coûte extrêmement cher à produire, et que voilà, si les gens arrêtent de l'acheter, ça peut pas marcher.
Mais avant de prendre la deuxième question, je me permets de rappeler, dans le cadre du cycle auquel appartient cette séance, on a eu un débat sur les modèles économiques de la presse et notamment des pure players, donc les journaux tout en ligne comme Mediapart, Arrêt sur Image, Les Jours. Donc vous pouvez regarder la captation et c'est très intéressant parce qu'en fait, on dit c'est un petit peu le nouveau Far West, la presse en ligne, etc. Mais une presse en ligne de qualité, comme vous le dites, avec des contenus, avec quand même des charges. Aussi néanmoins informatique, parce qu'il faut arriver à héberger les contenus, les diffuser, à faire une très jolie maquette. Donc effectivement, c'est une question qui est toujours ouverte, mais qui est passionnante, parce qu'en fait, ça permet ce qu'on vient de dire, des nouveaux formats, de l'audiovisuel, etc.
La Mediapart, c'est le meilleur exemple d'un site d'information qui a réussi. Ils ont 150 000 abonnés aujourd'hui, ils ont 10 ans. C'est, je crois... juste derrière ou juste devant lemonde.fr, le site de presse qui a le plus d'abonnés en France. Ce qu'ils ont fait est extraordinaire, mais c'est aussi parce que le contenu méritait qu'il y ait autant d'abonnés et que ça devienne aussi incontournable. Mais donc c'est aussi pour ça, je pense, qu'on croit à notre avenir, qu'on croit qu'on peut trouver les abonnés nécessaires, parce que voilà, le payant sur Internet, qui il y a 10 ans semblait complètement absurde, parce qu'on pensait qu'Internet ne pouvait se financer que par la publicité, on voit grâce à Mediapart notamment, qui est un très très bon exemple, qu'on peut faire des contenus d'extrêmement bonne qualité sur Internet et vivre de ses abonnements.
Je crois qu'il y avait une autre question, peut-être 2 questions encore.
Bonsoir. Déjà, je suis une abonnée des jours et je voulais vous remercier parce que c'est totalement addictif.
C'est nous qui vous remercions.
Et je voulais aussi vous demander si vous aviez l'impression que ça change votre écriture d'écrire pour un support uniquement numérique. Par exemple, de pouvoir faire des liens entre les articles vers d'autres sites internet.
En fait, ça change mon écriture d'écrire pour les jours parce que c'est... Il y a cette conception de série et d'épisode qui fait qu'on n'écrit pas de la même manière. Et puis, en fait, moi, j'ai toujours écrit sur Internet parce que j'ai commencé là quasiment. Enfin, j'ai fait des stages, etc., dans d'autres médias. Mais j'ai l'impression d'avoir grandi avec, pas avec Internet vraiment, mais en tout cas, commencé ma vie professionnelle en écrivant sur Internet. Donc, il n'y a pas vraiment d'écriture spécifique Internet qui pourrait être enseignée telle qu'elle. Les jours, il y a une écriture très différente de ce que j'ai connu avant. Il y a peut-être moins de liens, il y a peut-être plus de narration, il y a l'idée de qu'on peut aussi un peu annoncer les épisodes suivants à la fin d'un épisode. Enfin, il y a une manière de faire qui est très très différente. Les paragraphes sont plus longs que dans d'autres sites où j'ai pu travailler. Enfin, il y a presque une charte graphique, une charte narrative qui diffère par rapport à d'autres médias. Donc c'est pas spécifiquement la question d'Internet, je dirais, mais les partis pris qu'on a choisis.
Moi, je me demandais aussi sur vos sujets. Vous pouvez voir combien de lecteurs, combien de lus vous pouvez avoir sur certaines séries. Ça marche bien, le police-justice
Ça marche pas mal. Après, en fait, nous, on regarde davantage le nombre d'abonnés qui augmente que vraiment chaque sujet. Parce que, justement, comme on n'est pas... en fait, c'est pas tant l'audience de chaque article qui nous intéresse que la progression globale du nombre d'abonnés qui, eux, représentent notre base... réel quoi. Donc c'est je les regarde pas tellement en fait les chiffres par article. Après on voit quand une série déclenche beaucoup d'abonnements. Donc par exemple quand j'avais suivi le procès Tarnac, ça en avait déclenché pas mal parce que enfin c'est pour donner un exemple qui me concerne, hein, je veux dire c'est pas pour me vanter spécialement mais du coup on voit un peu ce qui peut déclencher un acte d'abonnement mais c'est plutôt ça qu'on regarde.
Et justement, pour rebondir là-dessus, je me disais, vous, dans les sujets que vous avez traités, est-ce qu'il y a des choses qui, à votre sens, n'avaient pas été traitées ou avaient été traitées différemment dans d'autres médias, puisque vous avez quand même, là, on a l'affaire Benalla, donc qui a été traitée dans d'autres médias, le verrou de Bercy, le procès de Clément Méric. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes attaché à porter, justement, parce que vous ne le voyez pas ailleurs?
Oui, mais alors, oui, c'est une petite obsession qui est rangée dans un coin du site pour l'instant. C'est une obsession qui s'appelle Delete Flic. Et c'était une obsession uniquement consacrée à des procès de policiers. Ça, par exemple, moi j'étais contente de le faire parce que, bon, c'était pas les premiers procès de policiers que j'allais voir, mais de pouvoir les ranger un peu les uns à la suite des autres et puis raconter les régularités qu'il peut y avoir entre leur manière de se défendre, entre leur vision du métier, la façon dont ils voient la violence dont ils sont victimes et celle qu'ils commettent, c'est assez intéressant et je pense que ça méritait d'être regroupé en fait à un endroit et mis en parallèle les uns avec les autres.
Mais justement, ça tombe très bien parce qu'on s'est pas du tout concerté, mais j'avais extrait.
C'est un tout woman show.
Oui, non, mais c'est parce que c'est cohérent. En fait, justement, j'ai relevé cette phrase que vous aviez écrite dans le cadre de l'affaire Théo L à Aulnay-sous-Bois, hein, donc l'agression d'un jeune par des policiers. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que finalement, c'est votre vision sociétale de la justice, vous m'arrêtez si je me trompe, on dirait que derrière chaque sujet que vous traitez, police-justice, vous cherchez l'humain, vous cherchez à comprendre l'autre, y compris donc ces policiers, puisque vous écrivez « Ces procès reflètent les conditions de travail de ces agents, leur vision du monde et l'idée qu'ils se font de leur place ». Donc on trouve vraiment cette altérité et je sens que vous recherchez vraiment à comprendre l'autre et à ne pas condamner justement...
C'est pas mon rôle de condamner, il y a des juges pour ça. Après, on essaye de comprendre, oui, c'est sûr. Quand on va à un procès, de toute façon, on essaye de se mettre un peu dans la peau de tous les personnages du procès, hein, que ce soit le procureur ou l'accusé. Dans le cas des procès de policiers, en fait, c'est révélateur, la manière dont ils ont de s'exprimer, de décrire les lieux d'intervention, de décrire les gens qu'ils ont en face. En fait, ça, c'est révélateur de leur pratique professionnelle, de leur vision du rôle social qu'ils peuvent exercer, qui est pas c'est pas évident en fait. Un policier, il se dit pas, tous les policiers se disent pas la même chose sur leur place, sur ce qu'ils doivent faire, et puis aussi sur les menaces auxquelles ils sont confrontés. En fait, il y a souvent au tribunal, hein, c'est particulier, mais il y a un grossissement de la menace à laquelle ils sont confrontés. Enfin, quand il y a des images de vidéosurveillance, on peut voir qu'un policier rentre dans un PMU avec que des petits vieux qui boivent un café au comptoir. Et à l'audience, le policier va dire « Oui, mais j'étais assailli, tout le monde s'est approché de moi. » Enfin voilà, il y a une manière de voir les choses qui est grossissante, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. En tout cas, c'est compréhensible et c'est explicable et je pense qu'il faut l'expliquer.
Oui, tout à fait. Mais justement, je reprends juste la main pour quelques questions, peut-être avant qu'on passe pour finir sur votre sélection de livres. En fait, justement, comment est-ce que vous arrivez à obtenir des informations sur des sujets aussi sensibles? Et est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous pouvez aussi mettre les autres en danger? Et comment vous prémunissez par rapport à ça?
En fait, les gens qu'on pourrait mettre en danger, majoritairement, c'est les gens qui, par leur métier, n'ont pas le droit de parler avec nous. Donc, dans les domaines que je traite, ça va être les magistrats, les avocats, c'est un peu moins le cas, et puis les policiers, évidemment. Pour pas les mettre en danger, c'est l'un de nos rôles, c'est-à-dire de trouver des moyens de les protéger, de pas, pas se téléphoner sur. Pas se téléphoner en clair, essayer d'utiliser d'autres moyens, pas se donner rendez-vous en face de leur travail si c'est risqué pour eux. Enfin voilà, c'est tout un tas de petites précautions que je vais pas. Enfin, c'est pas très intéressant, mais c'est essayer de faire en sorte que les gens nous fassent confiance et aussi que parfois il faut les protéger contre eux-mêmes, quoi. Parce que quelqu'un qui nous écrit avec sa messagerie professionnelle, par exemple, il faut lui dire tout de suite. Non, faites pas ça. C'est dans votre métier, vous n'avez pas le droit de me parler, donc vous ne devez pas m'écrire depuis votre adresse que votre employeur peut regarder. Enfin voilà. Donc c'est le danger. Il vient surtout de là, à mon sens. C'est les gens qui veulent témoigner ou nous donner des documents ou qui acceptent de raconter des choses qu'ils n'ont pas le droit de raconter. Il faut essayer de les mettre le plus en sécurité possible. Et puis aussi en parlant avec eux de la manière dont ils seront désignés dans un article ou pas. De la manière dont ils pourront apparaître ou pas du tout. Est-ce que si on nous donne des informations, la personne qui nous donne des informations est une source ou un interlocuteur cité comme tel? Ça, faut en parler aussi en amont avec la personne pour se mettre d'accord. Voilà, il y a plein de... Mais bon, on l'apprend au fur et à mesure aussi. Je pense qu'on fait tous des erreurs dans ce domaine. Enfin, je pourrais pas dire qu'en 10 ans, j'ai jamais fait une erreur qui aurait pu mettre quelqu'un en difficulté. Après, j'ai pas eu connaissance de quelque chose de grave qui soit passé à cause de ça, mais on apprend aussi au fur et à mesure de ces erreurs.
Au contraire, enfin, je sais pas. Je trouve ça très intéressant justement parce que les sujets sur lesquels vous travaillez, vous le dites vous-même, c'est pas de la com, c'est des sujets sensibles, c'est des sujets qui demandent quand même cette écoute-là. Justement, moi, j'ai une dernière question vraiment sur votre métier. En fait, est-ce qu'il n'y a pas des freins maintenant avec des lois qui paraissent par rapport aux informations financières qui sont sensibles? Est-ce qu'il n'y a pas, au niveau législatif, des freins qui vous sont faits, qui vous empêchent en fait d'exercer votre métier comme vous le souhaiteriez?
En théorie, oui. Et la loi sur le secret des affaires dont vous parlez, effectivement, elle est inquiétante. Après, moi, c'est pas forcément les lois qui m'inquiètent plus que ça. C'est plutôt c'est l'état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens à qui on pouvait donner la parole il y a quelques années, et aujourd'hui, ça fait hurler. Par exemple, pour prendre un exemple, imaginez qu'aujourd'hui, Redouane Faïd, qui est en cavale, soit interviewé par un journaliste. Aujourd'hui, ça déclencherait un scandale. C'est-à-dire que des journalistes qui vont le rencontrer, qui font son interview, qui diffusent son interview et qui ne le dénoncent pas à la police alors qu'il est recherché, aujourd'hui, ça passerait pour quelque chose d'inconcevable, de pas citoyen. Ce que je peux entendre, mais il y a des années, quand Maîtrine était en cavale, il était interviewé régulièrement par des journalistes. Donc il y a aussi un changement de mœurs. Moi, quand je suivais des assignés à résidence, j'ai eu quelques messages, rien de très désagréable, mais des messages qui disaient « Mais comment vous pouvez donner la parole à ces gens-là? Comment vous pouvez donner la parole aux mises en examen pour terrorisme? Comment vous pouvez donner la parole à des assignés à résidence ?» En fait, ça fait partie de notre boulot et je dirais que c'est plutôt ces barrières sociétales, moi, qui me posent problème que vraiment les barrières législatives qu'on arrivera toujours d'une manière ou d'une autre à contourner parce que les lois sont mal faites. Mais il y a plutôt une question de... Enfin, mon inquiétude, elle est plus sur l'époque et sur les mœurs, quelque part.
Et tout à fait. Et du coup, sur la réception aussi des papiers derrière, quoi. Tout à fait. Et
évidemment que la réception des papiers, elle est plus immédiate aujourd'hui. Je veux dire, dans le temps, on pouvait avoir un coup de fil d'un lecteur pas content. Ça arrivait. Maintenant, c'est beaucoup plus immédiat. Et puis, c'est beaucoup plus massif aussi. Il y a un côté où, en fait, si on publie quelque chose qui va déplaire à une catégorie de public... En fait, il peut y avoir aussi un phénomène de masse qui est déstabilisant pour un journaliste qui va le recevoir en pleine face. Donc c'est aussi évidemment que c'est bien de pouvoir interagir avec les lecteurs, et nous on essaye de le faire au maximum. Et puis de toute façon, j'allais dire, on a été élevés journalistiquement avec ça, et c'est très bien. Mais il y a aussi le côté négatif qui est voilà, une sorte de ruée parfois sur certains sujets qui rendent les gens fous, quoi. Donc c'est voilà, c'est délicat.
Oui, il y a une effervescence, quoi. Oui, tout à fait. Mais avant de, vous aviez une question.
Bonsoir. Je voulais vous demander si, depuis vos débuts, notamment aux Arocs, est-ce que vous avez constaté une évolution dans votre manière d'écrire ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un peu adopté un style, ou justement vous voulez absolument pas aller vers ça ? Est-ce qu'il y a une évolution, des retours en arrière, des manières de travailler, d'écrire différemment ? Enfin...
C'est une question intéressante, mais je saurais pas trop y répondre, en fait. Je sais pas trop, parce que quand on commence, moi quand j'ai commencé, j'étais dans un média qui était déjà assez libre dans le ton, donc ça m'arrivait de faire des articles qui étaient un peu des blagues, je faisais beaucoup de blagues dans mes articles, et puis peut-être qu'aujourd'hui je le fais moins finalement, je me permets moins, mais je pense que c'est pareil, c'est un peu une mode ou une époque qui a un peu changé entre temps. Non, autant je vois bien quel sujet m'intéresse aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas au début, autant sur la façon d'écrire, c'est pas... ça dépend aussi des médias pour lesquels on travaille, parce qu'on s'adapte à une attente éditoriale, il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence. Donc... Enfin, et puis les formats contraignent un peu la manière d'écrire, pas au sens négatif, mais forcément ont tendance à l'orienter. Donc je ne sais pas trop. Non, après chaque les jours en fait sont très respectueux de la personnalité des journalistes qui travaillent pour eux, donc chacun vient avec sa manière d'écrire, et même sur des sujets, j'allais dire un peu proches, entre Patricia Tourancheau et moi, on n'a pas eu tout la même manière d'écrire, de raconter, enfin, donc non, c'est assez libre, mais en fait je sais pas si on peut vraiment dire qu'on a un style qui va nous durer toute la vie, ou il y a aussi des périodes en fonction de ce qu'on lit, en fonction de ce qu'on a envie de raconter, on va pas forcément parler de la même manière, je pense. Mais comme les fréquentations peuvent changer, je pense que ça fait partie des choses qui vont et qui viennent aussi.
Justement, je trouve que c'est une question, on va vous donner la parole, une question très intéressante, parce que justement, vous avez écrit ce livre, La Lente Évasion, et vous me disiez justement que, en fait, ce sont des billets de blog, et finalement, qui composent un livre, etc., mais que pour l'instant, vous ne sautiez pas le pas de l'écriture. Donc ça, c'est intéressant aussi.
Oui, mais moi je suis pas devenue journaliste pour le plaisir d'écrire. C'est pas, je déteste pas ça, hein, mais sinon ce serait un peu pénible. Mais c'est pas, moi le moment d'écrire l'article, c'est rarement le moment où je m'éclate le plus. Ouais. Ce que je préfère, c'est tout ce qu'il y a en amont. Ça peut dépendre des fois. Hein. Ça peut être se documenter, qui est agréable. Ça peut être les premières personnes qu'on va rencontrer sur un sujet. Ça peut être aller en reportage. Et parfois, c'est aussi écrire qui est agréable. Par exemple, je trouve que les chroniques d'audience, c'est très agréable à écrire. Mais c'est aussi parce qu'il y a un côté fini, quoi. On va assister à une journée d'audience et puis on la raconte le soir. Donc c'est un cadre qui est assez rassurant, parce qu'une fois qu'on a pris en note tout ce qu'on avait besoin pendant la journée, il n'y a plus qu'à composer le papier en essayant de l'écrire le mieux possible. Après, il y a des sujets où c'est plus compliqué d'écrire parce qu'on a plein d'informations, de briques et de brocs, ou sur des sujets d'enquête, c'est compliqué aussi parce que, pour le coup, il y a une précision de langage à avoir et d'agencement entre les différents éléments de l'enquête qui sont très compliqués à faire. Donc ça dépend.
J'avais une petite question au niveau de la pratique. Est-ce que ça vous arrive de faire relire vos articles par les personnes que vous avez interviewées ? Souvent, il y en a qui demandent de pouvoir relire. Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez ou que vous refusez tout le temps ? Et pourquoi ?
En fait, alors c'est peut-être bizarre comme position, mais je vais essayer de vous l'expliquer. En fait, ça dépend de la position de pouvoir de la personne dans son champ. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un que je considère comme suffisamment puissant et exercé à rencontrer des journalistes pour maîtriser son langage, je vais absolument refuser de lui faire relire quoi que ce soit. Si c'est quelqu'un qui est, j'allais dire, vulnérable, qui n'a jamais été confronté à des journalistes avant, qui a peur parce qu'il pourrait commettre un impair, parce qu'il n'a pas le droit de parler et qu'on va quand même le citer, mais avec son accord évidemment, mais qu'il a peur du résultat, ça peut m'arriver de faire relire les citations, pas l'article, hein, mais les citations de la personne. Donc en fait, c'est un peu un arbitrage. C'est compliqué à, enfin voilà, c'est compliqué à justifier, mais j'essaye de vous l'expliquer comme je le pense. C'est que il y a des gens qui sont habitués à rencontrer des journalistes et à parler en public et aussi à donner leur avis sur des sujets. Et je considère que eux sont quelque part trop puissants dans leur champ d'expertise ou par rapport à moi aussi. Et veulent exercer un ascendant en faisant ça, et que dans ce cas-là, je pense qu'il ne faut pas accepter. Bah, après, c'est le genre de choses qui se discutent en amont. Moi, si on me dit vous pouvez interviewer le commissaire machin, mais par contre, il faudra qu'on le relise et on est un service de com, la réponse est non. Vous êtes un service de com, vous ne relisez pas mon interview. Si c'est le commissaire machin qui veut relire, bon, globalement, je vais dire non, mais je veux comprendre pourquoi, puis ça dépend. On peut en discuter pour voir quelle est sa crainte et pourquoi il me demande ça. Mais en fait, souvent l'idée de relire vient justement des services de com et pas de la personne interviewée elle-même. Donc c'est variable. Mais après, moi, je fais pas l'interview politique, donc si vous voulez, le problème principal, je l'ai pas. Je pense que c'est les ministres, c'est vraiment dans le champ politique pur que la question de la relecture se pose en permanence et que les journaux doivent adopter des positions à ce sujet. Moi, globalement, je fais pas relire parce que j'en ai pas besoin et parce qu'on me le demande assez peu aussi. Et puis quand c'est quelqu'un qui demande parce qu'il est inquiet, parce qu'il l'a jamais fait, parce que éventuellement il peut relire ses citations, mais on se met d'accord en amont. Mais enfin, si j'étais confrontée par exemple à un chef policier ou un juge d'instruction. Récemment, j'ai fait l'interview d'un juge d'instruction financier, Renaud Van Ruymbeek, qui est proche de la retraite, et lui m'a pas demandé de relire par exemple. Donc moi, j'allais pas lui proposer. Enfin, si vous voulez, à un moment, on n'est pas c'est à lui de me le demander s'il veut. Il m'en a pas parlé, donc et puis il y avait pas de problème. Enfin voilà, il m'a pas dit ensuite ah oui, mais j'avais pas dit ça. Ou... Donc en général, on n'a pas de problème. Et puis lui, de par sa position, ça m'aurait embêté qu'il me le demande, si vous voulez, parce qu'il s'est exprimé toute sa vie sur des sujets relatifs à la justice en général, pas sur ses dossiers, hein, mais sur des sujets sur la justice. Il sait faire. Enfin voilà, j'aurais plutôt dit non. Et si ça avait conduit à annuler l'interview, pourquoi pas. Enfin, il y a des interviews qui méritent d'être annulées pour cette raison-là, qui est une raison déontologique.
Mais justement, pour revenir à votre livre, il y a ces questions déontologiques qui se posent, puisque vous dites que la personne qui était détenue et que vous suivez, Alain, n'est pas habituée à être exposée. Donc comment il va prendre le fait, en fait, que sa vie soit exposée, puisqu'il n'a pas de pseudonyme? Il a même reconnu à un moment par un gardien qui dit « Ah, tu vas devenir une célébrité », et vous vous demandez s'il faut poursuivre le travail ou pas à ce moment-là. Donc ces questions déontologiques sont au cœur de votre travail sur ces sujets. Et quand même, ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin, Alain se fait prendre en photo sans aucun problème, et on sent que lui-même a bougé par rapport à ces problématiques. Donc je crois que vraiment, là, on est au cœur... effectivement, de la pratique journalistique, quoi.
Mais c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que des fois il faut protéger les gens malgré eux. C'est-à-dire que Alain, moi dès le début, il m'a dit vous pouvez dire que je m'appelle Alain, vous pouvez dire que je suis en prison à la santé, et puis s'il y a besoin de photos, moi ça me dérange pas. Enfin, en fait, il faut aussi savoir à quel point ça peut lui porter préjudice. Donc dans ce cas-là, en fait, on peut pas non plus décider à la place de la personne. Donc ce qu'on va lui dire, c'est juste ok, mais est-ce que vous avez pensé à toutes les conséquences? Est-ce que qu'est-ce qui se passe si par exemple votre codétenu vous reconnaît, enfin s'aperçoit que vous êtes le sujet d'un blog? J'y avais pas pensé. Bon, on en discute et puis on se met d'accord au bout d'un moment sur le fait qu'il y ait son prénom mais pas son nom de famille, que lui finalement ne craint vraiment pas aucun problème avec ses codétenus ou avec ses gardiens, que donc c'est pas grave, que enfin voilà, on en discute, mais il faut aussi parfois poser la question parce que les personnes n'y pensent pas d'elles-mêmes, mais c'est normal parce qu'elles n'ont jamais été confrontées à ça. Et donc oui, il y a des moments où j'ai eu une hésitation, notamment parce que je crois qu'il avait eu, enfin je sais pas si je le raconte dans le bouquin ou si je l'ai un peu dissimulé, mais il avait eu un petit, maintenant c'est passé, il avait eu un petit problème avec un gardien à un moment qui avait fait référence au blog, je le disais dans le bouquin.
Oui, tout à fait, oui, c'est ça.
Donc voilà, donc c'est en fait à ce moment-là, on a craint que ça lui porte préjudice à l'intérieur de la prison, auquel cas il faut pas que ça change sa vie non plus quotidienne. Je m'étais un peu inquiétée, mais c'était pas grave finalement.
Oui, j'avais une question un peu plus technique sur votre manière de travailler. C'est quand vous cherchez des infos qui peuvent être parfois difficiles à dire pour la personne que vous interviewez, ou qu'elle n'a pas la possibilité de parler normalement de par sa profession, par exemple. Comment vous procédez, surtout quand c'est des longues interviews, si c'est par téléphone ou même physiquement? Est-ce que vous enregistrez automatiquement? Est-ce que vous prenez juste des notes? Comment vous procédez?
Ça dépend, il n'y a pas d'automatique. Ça dépend des fois. Les gens qui n'ont pas le droit de nous parler, la majorité des gens n'ont pas le droit de nous parler, en fait, mais... Par exemple, pour vous donner l'exemple des policiers, puisque c'est souvent eux qui ont le plus peur de parler à des journalistes alors qu'ils n'y sont pas autorisés, et ce qui se comprend, ça date de, notamment de l'époque où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, où il y avait eu des sanctions contre des policiers qui avaient été identifiés comme source de journalistes. En fait, souvent, le plus difficile, c'est de les convaincre de nous rencontrer. Parce que pour eux, un journaliste, c'est quelqu'un qui arrive avec un enregistreur, un carnet, drapé dans sa profession, en disant « De toute façon, puisque maintenant vous avez accepté, vous êtes obligé de me parler et moi je vais le publier. » En fait, c'est pas comme ça. On peut rencontrer des gens discrètement, en parlant avec eux de leur métier, sans forcément parler d'une affaire en particulier, puisque voilà, ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc il y a des choses... En fait, les policiers, je donne cet exemple parce que c'est flagrant, ils connaissent pas tellement... ils savent pas de quoi ils ont le droit de parler et de quoi ils n'ont pas le droit de parler, puisque en général ils n'ont pas rencontré de journaliste dans leur vie, et ils se disent ah oui mais si un journaliste veut me rencontrer c'est pour parler de telle affaire, mais en fait non, on a besoin de connaître des vrais policiers, parce qu'on a besoin de comprendre l'exercice de leur métier quotidien, de quelle manière ils travaillent, je sais pas moi, la dernière loi imaginée par le ministre de l'Intérieur, en quoi elle les touche, est-ce que ça change leur exercice. Donc plus on rencontre des vrais policiers par opposition aux policiers qui sont autorisés par leur hiérarchie à s'exprimer, ou qui ont des étiquettes syndicales mais qui sont en détachement depuis 25 ans, donc ils n'ont pas connu le terrain récemment. Enfin, on a besoin aussi de rencontrer des gens en exercice dans certains métiers, que ce soit dans un commissariat du 92, que ce soit dans un service spécialisé sur un sujet. Enfin, voilà. Donc l'idée aussi, c'est de rencontrer des gens avec qui on va pouvoir parler en général de leurs conditions de travail et de leur façon d'exercer leur métier. Donc eux, c'est pas forcément. Enfin, on a besoin de les convaincre de nous rencontrer parce qu'ils ont peur de nous. Mais une fois qu'on les rencontre, ça se passe bien. Et bah après, c'est des gens qui peuvent devenir des sources aussi. Mais par la force des choses, parce que s'ils connaissent une situation qu'ils ont envie de dénoncer, ils savent qu'on s'est déjà rencontré avant et donc ils vont nous le dire. Ou voilà.
Et pour que la citation corresponde vraiment à la manière dont ça a été formulé, si vous enregistrez, vous allez en amont toujours bien préciser que c'est enregistré.
Ou oui, bien sûr. Ouais. Mais après, c'est pas toujours nécessaire d'enregistrer.
Ça les stresse pas,
Non, enfin, on essaye de sortir l'enregistreur que si on sent que c'est possible. Enfin, c'est après, c'est une question de. Ouais. Si je vous interviewe vous et que vous êtes super flippé, je vais pas vous dire, au fait, j'aimerais bien enregistrer. Enfin, voilà, on sent aussi. On peut prendre des notes. Enfin, la personne déjà peut avoir peur à la vue du cahier. Mais si on sort un enregistreur, c'est encore pire. Donc, on s'arrange avec ce degré-là de possibilité, quoi. Mais prendre des notes, ça marche. Enfin, c'est pas.
S'il n'y avait pas d'autres questions, on va peut-être bientôt se quitter, mais quand même, j'avais demandé à Camille de choisir en fait des livres. Et en fait, on ne s'est pas du tout dit pourquoi vous aviez choisi ceci, etc. Mais pour autant, ça, peut-être que ça dresse un portrait chinois aussi. Je me suis dit, moi j'aimais bien, on a parlé tout à l'heure de ce livre-là, Chez Soi, et je me dis, c'est vrai, vous travaillez beaucoup sur les espaces que je disais tout à l'heure, la prison, la maison, etc. Est-ce que vous aimeriez dire un mot de ce livre avant qu'on se quitte, ou peut-être de votre sélection en général?
Non, mais je crois que j'ai choisi que des livres que j'aime bien et pour des raisons différentes, et le bouquin de Mona Chollet, Chez Soi, c'est... Mona Chollet, par exemple, elle fait partie de ces multiples petits modèles journalistiques que je vous citais tout à l'heure. Elle est journaliste au Monde diplomatique, puis elle écrit des bouquins chouettes. Et puis je trouve que son livre Chez Soi, c'est sur le rapport à l'espace domestique, en fait, sur l'idée que l'espace domestique est un espace déprécié dans le débat public, parce que réservé aux femmes, trop intime, enfin voilà, par opposition à quelqu'un qui est intelligent et qui a des choses à dire, il va à l'extérieur de chez lui. Et elle réhabilite un peu le rapport qu'on peut avoir à cet espace-là, à son habitat, à son intérieur même. C'est assez intéressant. Et puis, c'est un bouquin féministe par ailleurs. Après, les autres bouquins que j'ai choisis, y a Philippe Vassé, un livre blanc. Alors, Philippe Vassé, c'est un journaliste spécialisé qui est rédacteur en chef à Intelligence Online, qui est un site, une lettre d'information sur le renseignement, sur abonnement. Et Philippe Vassé, il écrit aussi des bouquins super et assez poétiques. Donc là, il a pris les zones blanches des cartes IGN. Vous voyez les cartes IGN donc tout est détaillé, le moindre bâtiment, la moindre route, etc. Et lui, il a pris que les espaces blancs, donc les espaces sur lesquels la carte ne montre rien. Et il y est allé. Et il raconte ça, donc c'est une sorte d'errance un peu poétique où il rencontre des gens bizarres qui traînent dans des terrains vagues. Et il y a des endroits qui font flipper, puis d'autres non, d'autres qui sont marrants. Donc ça, c'est très bien. Le journaliste et l'assassin, ça c'est au départ deux articles du New Yorker qui ont été traduits et transformés en bouquins. Alors, l'histoire est très compliquée. Enfin, c'est pas de la fiction, hein, c'est une histoire vraie, mais c'est très compliqué. C'est une journaliste qui a refait une enquête. En fait, c'est une journaliste qui a fait une enquête sur un confrère qui avait travaillé sur un meurtrier. Et bon, tout le bouquin traite quand même, alors il faut être un peu journaliste pour s'y intéresser, je crois, mais ou bien aimer les faits divers. Tout le bouquin traite du rapport d'un journaliste à ses sources et du rapport d'un journaliste à la confiance. Et c'est très intéressant parce qu'elle raconte comment donc le journaliste dont elle parle est devenu faussement ami avec le meurtrier pour réussir à obtenir des confessions complètes du meurtrier, puis ensuite les publier dans son journal. Et en fait, c'est hyper noir sur le métier de journaliste parce qu'elle montre qu'on est vraiment des salauds, mais c'est vraiment questionnant et très intéressant sur la manière qu'on peut avoir de prendre les gens et de leur dire, bah voilà... on est super copains, c'est pas du tout que je suis en train de t'essorer, c'est parce que j'ai besoin absolument de savoir à ce moment-là, quand tu l'as tué, t'as fait comment. Voilà, donc c'est assez noir, assez grinçant, mais c'est très bien. Et puis Le Bûcher des Innocents, bon, ça c'est pareil, hein, s'il y a des étudiants en journalisme dans la salle, vous connaissez peut-être. C'est, là, ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'était sur l'effet de meute des journalistes. Parce que c'est Laurence Lacour, elle était jeune reporter à Europe 1. Au moment de l'affaire Grégory, elle était partie dans l'Est, avec les premiers journalistes partis là-bas. Et elle raconte en fait comment un village tout petit se transforme en base arrière pour plein de journalistes venus faire un fait divers. Et bon, évidemment, là aussi, on passe pour des gens pas très bien. Mais, et donc à la fin, elle arrête d'être journaliste, elle épouse le juge. Enfin, vous voyez, ça, c'est pas très optimiste. Mais c'est vraiment un super bouquin. Donc elle raconte de l'intérieur un peu les coulisses de quand il y a plein de journalistes qui se retrouvent à un endroit, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils parlent, pourquoi il y a des camps qui se créent avec des théories différentes. Ce qui est assez juste, je pense, dans la vie en général. Enfin, voilà, même quand on voit un procès, hein, où l'enquête a déjà été faite, etc., il y a toujours des journalistes qui disent « Ouais, mais toi, t'en penses quoi de lui? À ton avis, il est coupable ?» Donc c'est la version XXL et pendant le fait divers, donc pas pendant le procès. Mais c'est très très bien aussi. Et de sources sûres, c'est sur les rumeurs et les légendes urbaines. Donc déjà, c'est distrayant à lire parce qu'il y a plein d'exemples que je connaissais pas de légendes urbaines folles. Et puis ça, je crois qu'ils sont sociologues. Oui, prof de sociologie et attaché à la Maison des sciences de l'homme. Et donc ils racontent un peu pourquoi on s'intéresse, enfin pourquoi ça plaît les rumeurs, les légendes urbaines, et pourquoi on y croit, et comment faire pour que tout le monde n'y croit pas, même quand c'est complètement faux. Voilà, c'est sur les nouvelles rumeurs d'aujourd'hui. Et du il est coup, un peu vieux celui-là, mais il est bien aussi.
On est en plein dedans avec tout ce qui est info intox en ce moment. Bah écoutez, Camille, on arrive au terme de cette rencontre. Alors, est-ce que vous accepteriez que je synthétise la rencontre en disant vous intéressez aux zones blanches de la justice, justement? Voilà, donc bah, je vous remercie vivement. Je remercie le public vraiment pour vos questions, votre présence. Donc effectivement, la captation audio sera disponible sur notre site. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Je remercie également les collègues qui ont permis l'organisation de cette soirée. Et un tout dernier mot pour vous dire qu'on, si vous le souhaitez, nous pouvons nous retrouver le 19 novembre. Cette fois-ci en petite salle du Centre Pompidou pour un débat sur le journalisme et la déontologie avec Patrick Evenot de l'ODI et des journalistes en fait concernés par ces questions. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. Merci et bonne soirée à vous.